Les enjeux internationaux, Xavier Martinet.
Et oui, mardi prochain se tiendra à Davos, en Suisse, le traditionnel Forum économique mondial, la réunion annuelle des chefs d'État, d'entreprises et d'ONG de plus de 70 pays, 3000 personnes en tout, dans un climat plutôt optimiste, quoique. Bonjour Sébastien Jean.
Bonjour.
Merci d'être en studio avec nous, directeur du CEPI, Centre d'études prospectives et d'information internationale. Pour l'optimisme, donc, c'est la confirmation de reprise de la croissance mondiale, celle des échanges et du PIB rapide prévu à 3,7%. En 2018, c'est une amélioration, mais le système commercial mondial court des risques sérieux de trois ordres. D'abord, une incertitude géopolitique ou politique assez forte. Ensuite, un endettement qui peut devenir préoccupant, voire ingérable. Et puis surtout, une remise en cause politique de plus en plus forte de sa gouvernance, ce qu'on appelle le multilatéralisme. D'abord, par l'attitude explicite des États-Unis de Donald Trump et son slogan America First, dans un contexte où l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, atteint un point d'affaiblissement critique après l'échec de la dernière réunion. Le forum de Davos, d'ailleurs, n'est pas exempt d'inquiétude. Son président Klaus Schwab pointe explicitement la concurrence croissante entre les nations et de profondes divisions au sein de nos sociétés. Dans ce contexte, donc, la présence déjà contestée de Donald Trump, premier président américain depuis 2000, va constituer un coup d'éclat. Mais la déflagration pourrait être de plus grande ampleur. 70 ans après le GATT, eh bien, le multilatéralisme est-il en train d'imploser? Sébastien Jean, peut-être votre avis sur ces bonnes prévisions de croissance mondiale avec un rythme qui s'accélère.
Oui, ce sommet intervient dans une situation un peu paradoxale pour l'économie mondiale parce qu'elle est à la fois perclue de tensions qui sont de plus en plus vives, notamment géopolitiques, également de commerce international. Et dans le même temps, on a une conjoncture économique qui est bonne, et qui est bonne au niveau mondial, et qui est, je dirais, relativement bonne dans la plupart des zones, c'est-à-dire on a plutôt une convergence de bonnes nouvelles. D'ailleurs, la zone euro en est l'une des origines principales, parce que après des années de crise, à la fois liée à la crise financière, puis à la crise de la zone euro, il y a une reprise qui se confirme, qui se solidifie, entre guillemets, en zone euro. C'est un des éléments, mais également, il y a des pays qui étaient en crise profonde, qui maintenant reviennent un peu à la surface, ou sans forcément que ce soit une conjoncture excellente, mais c'est
Russie,
mieux, comme la Russie, le Brésil. Les États-Unis sont toujours en croissance. Il y avait un risque de fin de cycle, disons, de chute, de décélération forte. Il ne s'est pas matérialisé. Et puis la Chine, on a beaucoup parlé de leur ralentissement, du risque d'atterrissage brutal. Le résultat, c'est que la conjoncture est relativement bien contrôlée en Chine et la croissance reste assez dynamique. Mmh. L'ensemble, avec en plus une forte interdépendance qui fait des pays, par exemple, comme le Japon, où l'activité économique était relativement molle, ont été tirés par des pays comme ça ont été tirés par la demande extérieure. Et le tableau final, c'est que finalement, ça va pas mal en termes économiques dans la plupart des pays du monde. Donc, ce contraste entre des risques potentiels et une conjoncture qui, pour l'instant, est relativement bonne.
Oui, risques potentiels, je le disais, on va pas s'étendre dessus. L'incertitude géopolitique, des interrogations concernant aussi cette fameuse remontée des matières premières, mais qui semble corrélée aussi à la baisse du dollar. Par contre, ce qui inquiète plus, c'est, on voit certains articles paraître en début d'année là-dessus, c'est cette vulnérabilité, on pourrait dire, du système mondial et du système financier, avec un endettement qui augmente énormément pour les États-Unis, plus endetté à 330% du PIB qu'avant la crise de 2007, et également les bourses qui ont flambé. On atteint des chiffres au-delà de 30% pour certaines.
En effet, ça correspond à une situation où, à la suite de la crise économique et financière, et puis aussi partiellement en partie à cause de la zone euro, les banques centrales des pays les plus importants, des zones les plus importantes dans le monde, en particulier celles des États-Unis, du Japon et de la zone euro, ont mené des politiques monétaires qu'on a appelées ultra-accommodantes, qui les ont amenées à créer des montagnes de liquidités et à injecter ces liquidités dans l'économie. Le résultat, c'est qu'il faut bien qu'elles se placent quelque part. Elles ont donc alimenté une très forte hausse du crédit. Et tout ça s'est matérialisé par une forte hausse de l'endettement dans beaucoup d'économies. Alors ça a été spectaculaire en Chine et ça entretenu dans les zones développées une inflation des actifs, une hausse importante des prix d'actifs, aussi bien dans un certain nombre de marchés immobiliers. Le marché immobilier au Royaume-Uni, par exemple, a beaucoup augmenté, même si récemment, justement, il a été un peu orienté à la baisse. Et puis, forte hausse des marchés d'actions. Si bien qu'on est aujourd'hui dans une situation où, aux États-Unis, par exemple, les indices, en particulier l'indice dit de Shiller, qui est souvent utilisé un peu comme baromètre du niveau de valorisation des actions nous montre qu'on est à un niveau extrêmement élevé qui atteint les plus hauts historiques et qui ne se compare que à ce qui a été atteint en 1929 ou avant la crise de 2001. Donc évidemment, ça pose question sur la durabilité de ce niveau. Donc le paradoxe, c'est que on est revenu à une conjoncture positive largement parce qu'il y a eu ces politiques monétaires qui ont entretenu la croissance et en même temps, elles ont aussi créé ces inquiétudes.
Oui, vous le disiez, une valorisation qui a atteint, je crois, plus de 8 000 milliards de dollars. C'est effectivement un chiffre assez extraordinaire. Par contre, dans ce contexte où il y a des raisons potentielles de garder un optimisme, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une dévalorisation, là, pour le coup, des règles de commerce multilatéral et notamment de l'OMC. Je fais référence à cette dernière conférence qui s'est tenue donc à Buenos Aires et sur laquelle aucun accord majeur n'a pu être obtenu, alors même que l'OMC est déjà minée par ce qu'elle appelait la multiplication des accords régionaux.
Oui, au fond, on n'attendait pas beaucoup de la conférence ministérielle de Buenos Aires. Et pourtant, on a été déçus. C'est-à-dire que même un accord un peu minimaliste qu'on attendait, qui interdisait les subventions à la pêche illégale, hein, ça paraît une évidence, ou ça, eh bien, même ça, même sur un point comme celui-là, on n'a pas réussi à obtenir un accord. Mmh. Et au fond, le système commercial multilatéral est effectivement sous très forte tension pour deux raisons essentielles. La première, c'est la position des États-Unis qui le prennent un peu en otage parce que ils ne veulent plus du système tel qu'il est et ils sont en train d'étouffer sa capacité à régler des différences se basant sur des règles, hein, notamment en empêchant la nomination de nouveaux juges à ce qui est dans ce système de règlement des différends. Et puis, dans le même temps, il y a une différence d'interprétation et du coup un différent politique entre la Chine et ses principaux partenaires, notamment l'Europe et les États-Unis, pour savoir dans quelle mesure est-ce que la pratique de l'organisation de l'économie chinoise est conforme à ses engagements dans l'OMC. Mmh. C'est tout ce qui est derrière le différend actuel sur le statut d'économie de marché de la Chine. Est-ce que on peut considérer que la Chine respecte les engagements qu'elle a pris, par exemple, lorsqu'elle a signé l'accord sur les subventions de l'OMC, qui limite très strictement la façon dont on peut mettre en œuvre des subventions, surtout quand elles ont un impact sur les partenaires.
Et c'est un reproche qu'avait fait d'ailleurs directement Donald Trump à la Chine. Je crois, on pourrait dire donc qu'il y a eu égard à ces accords multilatéraux et à l'OMC des pays directement menaçants ou qui remettent en cause ce multilatéralisme, des pays qui semblent hors cadre comme la Chine. Il y a là une prochaine conférence en 2019 seulement. La commissaire européenne Cecilia Malmström qui appelle à des accords plurilatéraux maintenant, est-ce que ça vous semble un pis-aller ou est-ce que ça vous semble bien pour tenir jusqu'à 2019?
Oh, il me semble que c'est effectivement un pis-aller, c'est le premier terme qui me vient à l'esprit, en effet, parce que devant l'incapacité un peu navrante à arriver à un accord, même sur des sujets qui semblent évidents, comme celui que je mentionnais tout à l'heure, des pêches illégales, les pays qui ont voulu marquer, disons, leur confiance dans l'avenir, essayer de bâtir quelque chose, ont proposé un programme de travail et l'ont proposé de manière plurilatérale, ce qui, dans le vocabulaire OMC, veut juste dire tout le monde n'est pas obligé de participer. Donc c'est une façon de rabaisser un peu la barre pour essayer d'avancer quand même. Mais c'est aussi une façon de reconnaître que le cadre multilatéral, quand on dit multilatéral à l'OMC, ça veut dire tout le monde participe, que ce cadre est bloqué. Et c'est une façon d'en prendre acte. Maintenant, est-ce qu'il va pouvoir survivre en étant bloqué? C'est un peu ça, je crois, la question qui est sur la table aujourd'hui. Dans un contexte où si aucune solution n'est trouvée d'ici le mois de septembre, au mois de septembre, son système de règlement des différends, qui est vraiment un des outils majeurs de l'OMC, ne va plus pouvoir fonctionner parce que c'est un peu technique, mais il y a un juge dont le mandat va être achevé. Ils vont pas pouvoir, tant que les États-Unis bloquent, nommer un remplaçant et du coup, il pourra plus y avoir de jugement sur les litiges commerciaux. Donc, cette fonction un peu de règlement des litiges à l'OMC va cesser de fonctionner à ce moment-là si on n'a pas trouvé de solution. Or, je considère que c'est un peu la clé de voûte du système commercial tel qu'il existe. Donc là, clairement, il y a une prise en otage de ce système commercial multilatéral par les États-Unis et une menace puis un compte à rebours qui est déjà déclenché. Ce qui est difficile pour l'instant, c'est que les États-Unis ont montré leur capacité à tout bloquer, à proférer des menaces. Ils n'ont pas vraiment exprimé quelles étaient leurs préférences et qu'est-ce qui serait susceptible de construire.
Et ont même promu parfois expressément une sorte de bilatéralisme très clair plutôt que ce système multilatéral. En 30 secondes, il nous reste très peu de temps, mais ce forum de Davos, ce sera l'occasion de discours, notamment Narendra Modi, le président indien qui ouvrira le forum, Donald Trump également. Est-ce qu'il faut en attendre des indications claires sur ce multilatéralisme?
Je ne crois pas, c'est-à-dire, et encore moins des indications clairement positives. Il me semble que ça serait étonnant de la part de l'administration américaine, en tout cas de ce qu'on a vu récemment. Probablement, si Donald Trump y va, c'est avec l'idée de vendre sa politique, d'essayer peut-être de vendre ce qu'il va présenter sans doute comme un retour des États-Unis, comme un lieu attractif pour l'investissement, l'activité industrielle, etc. Donc espérons que ce sera autre chose et que ce sera des signes de responsabilité, mais j'en doute.
À suivre donc mardi prochain. Merci beaucoup en tout cas Sébastien Jean, directeur du CEPI. Et puis je renvoie nos auditeurs à l'économie mondiale 2018 aux éditions La Découverte. Rendez-vous aussi sur la page et le fil Twitter des enjeux internationaux pour les informations et vidéos. Demain, on s'intéressera justement au bilatéralisme dans lequel s'illustre la diplomatie française avec la Turquie, la Chine, l'Allemagne ou le Royaume-Uni particulièrement. Est-ce bien ça, parler à tout le monde ?